Chantal Thomas, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avec nous ce soir et je vous en remercie pour nous présenter East Village Blues aux éditions du Seuil. Donc je disais qu'il était un voyage en deux temps, puisque vous racontez à la fois votre découverte de New York dans les années 70 et le moment où vous y retournez 40 ans plus tard, en hommage, j'ai envie de dire plus qu'en pèlerinage, à toute une époque. La première question que j'ai envie de vous poser tout de même, c'est juste avant votre départ pour New York, puisque vous démarrez ce livre avec un extrait de Roland Barthes. Vous venez de terminer une thèse sur Sade au moment où vous partez. Et vous citez Roland Barthes en disant que vous parlez de ce qui est achevé en rêvant de ce qui ne l'est pas. Est-ce que ce n'est pas la définition de l'adolescence ?
Je cite Roland Barthes ?
Oui, dans votre livre, vous citez Roland Barthes.
Mais qu'est-ce qu'il dit, pardon?
Non, vous citez...
Je ne comprends pas du tout.
Vous citez votre thèse, oui, en fait, sur Sade, et vous présentez votre thèse à Roland Barthes,
oui,
et vous dites à ce moment-là, donc vous citez un extrait en disant que vous écrivez, que vous parlez dans cette thèse de ce qui est achevé en rêvant de ce qui ne l'est pas. Ça va, jusque-là? Vous voulez que je change de question?
Non, non.
Donc, en fait, ma question porte sur ce que...
Pardon, on commence un peu lentement, mais bon, on prend connaissance, vous voyez.
Sur ce qui est votre définition de l'adolescence à ce moment-là de votre vie, quand vous partez à New York,
oui,
vous êtes cette jeune femme qui vient de terminer une thèse sur Sade.
Oui.
Pourquoi vous avez fait une thèse sur Sade?
Ah, mais c'est une autre question.
Du coup, j'enchaîne. Hein. On reviendra à l'adolescence plus tard.
Mais d'abord, j'ai commencé de lire Sade ici, quand j'étais étudiante. Et ça m'a fait un effet très fort. J'ai été vraiment stupéfaite qu'on puisse écrire dans une langue aussi classique, voyez, des tels excès érotiques. Et j'ai trouvé que les deux, c'était vraiment très, très... très important, avec en plus cette chose de Sade qui est très particulière au Marquis de Sade, qui est d'alterner les scènes et les dissertations philosophiques. Et le fait que les libertins, au fond, sont des êtres extrêmement intellectuels et ils retrouvent leur ardeur en écoutant des dissertations. Et ça, j'ai trouvé ça très fort. Et puis, j'ai aimé son écriture. Voilà. Et puis, il faut dire aussi que quand je suis allée voir Roland Barthes à Paris, il a tout de suite été très intéressé par ce sujet. Et après, j'ai compris qu'au même moment, il était en train d'écrire un livre sur Sade. Donc, il y avait une chose complice, quoi, vraiment.
Une résonance. Alors, ce choix de Sade résonne aussi avec votre livre et avec ces années 70, puisque on voit bien quand même dans votre livre que les années 70 sont une écriture qui est vraiment une écriture aussi dans une ambiance où le sexe, la drogue, le dépassement de soi est vraiment un mode de vie.
Oui, alors il faut dire que Sade, à cette époque, c'était très très à la mode. Il y avait la pièce de Peter Weiss, Mara Sade, et donc je suis très perméable aux époques. Et quand je suis partie à New York, donc juste après la soutenance, j'avais même mon billet dans ma poche, j'ai été vraiment transportée par la vitalité de New York. C'est une chose banale à dire, mais dans les années 70, c'était encore plus éclatant. Et il y avait cette chose de... C'était 10 ans après la Beat Generation, au moins. Mais bon, d'abord, les acteurs étaient toujours là. Je veux dire, Ginsberg, Burroughs, tout ça était là. Et il y avait, ce qui n'est pas français, un rapport à la poésie extrêmement scénique, chanté, physique, théâtral.
Vous parlez beaucoup de Rimbaud aussi, hein, dans ce livre. Il y a vraiment une prégnance quand même de la poésie aussi dans les années 70. Alors vous dites aussi, c'est rigolo, tout le monde est artiste, tout le monde est poète.
Tout le monde est... Oui, je suis arrivée là-bas. Ici, c'était extrêmement... Les écrivains sont plutôt discrets et autour de moi, on était jeunes et jamais on n'aurait osé se dire écrivain. Et quand je suis arrivée là-bas, D'abord, je voyais partout des personnes, des gens dans les parcs et tout, avec leur machine à écrire, en train de taper comme des fous. Et ils se présentaient comme poètes. Mais si j'ai mis en exergue Rimbaud, c'est bien sûr parce qu'il est le poète par excellence. Et c'est aussi parce que les poètes de cette génération étaient entièrement dédiés à Rimbaud. Il était vraiment... c'était un culte.
Alors, vous parlez de votre arrivée à New York. C'est rigolo parce que finalement, tout votre livre raconte une forme de perdition dans laquelle on se laisse, dans laquelle on se laisse aller en vous lisant et dans laquelle vous vous laissez aller. Et vous démarrez le livre en disant que vous perdez tout le temps votre passeport.
Oui, mais il faut que je m'arrête. Oui, j'en ai perdu 7. 6. Le 7e, bon, je l'ai toujours. Je l'ai mis dans un coffre d'ailleurs. J'ai tellement peur.
Mais que votre passeport ?
Non, des papiers. Non, ma carte d'identité aussi. Oui, oui. J'ai mentionné le passeport parce que c'est ce dont j'ai besoin pour aller en Amérique, mais sinon.
Mais vous perdez les objets qui n'ont pas d'importance pour vous ?
Ben, je ne sais pas ce que c'est, mais en tous les cas, je constate ça. J'ai constaté ça. Et en commençant d'écrire les livres, je me suis dit, tiens, c'est quand même quelque chose sur l'identité.
Vous arrivez à New York et vous dites, cette ville est jaune. Ah.
Ben, oui. D'abord. Quand on arrive à New York, bon, c'est très rude de passer le service d'immigration. Ils sont extrêmement durs, de plus en plus même. Donc il y a une ligne jaune qu'il faut franchir. Et ensuite, en arrivant, il y a cette chose qui m'a vraiment ravie, c'est les taxis. C'est une image célèbre de New York, surtout après Taxi Driver. Mais ces taxis jaunes font partie de la couleur de la ville.
C'est aussi une ville de béton, de sculpture. Donc on a l'impression d'être dans un film hein, quand on est dans votre livre. Ce livre est émaillé de graffitis qu'on voit. On en voit un extrait derrière nous, voilà. Qui sont des photos d'Alan Weiss. Pourquoi vous aviez envie de mettre ces graffitis dans votre livre ?
Alors, c'est d'abord l'idée de ce livre, elle est venue en même temps que l'idée qu'il soit scandé par des photographies de graffitis pris dans East Village, parce que c'est le même projet qui m'anime et qui fait que ces photos conservent une trace absolument éphémère. C'est-à-dire qu'en écrivant, je sauve, comme tous les narrateurs qui veulent sauver quelque chose d'une mémoire, je fais exister quelque chose d'assez ténu, qui est une découverte d'un quartier en train de disparaître, ou peut-être déjà disparu. Et il m'a semblé que scander ces chapitres par des photographies de graffitis déjà complètement effacées et complètement disparues, dans un quartier où maintenant c'est hors de question qu'il y ait des graffitis, c'était une façon de leur donner une vie.
C'est ça qui est frappant aussi quand vous revenez à New York en 2017. La ville est devenue lisse.
Oui, alors on a parlé tout à l'heure avant cet entretien. Ce lisse, cet effacement des aspérités, c'est évidemment quelque chose qui gagne le monde entier. Mais il est plus ou moins visible, plus ou moins fort à New York, et en particulier dans ce quartier, qui est dans le sud de New York, qui était avant le quartier le plus pauvre, qui était le Bowery. C'est d'autant plus spectaculaire. Maintenant, c'est devenu le quartier le plus cher, un des plus chers. Et comble d'ironie et de cruauté, il y a un hôtel qui s'appelle le Bowery Hotel, d'ailleurs, qui est juste en face d'un ancien hôtel, sorte d'hospice pour les clochards du lieu, et juste en face, hyper luxueux, absolument inabordable, et déjà c'est arrogant, mais en plus, à l'intérieur, ils ont mis des photographies, comme une chose exotique, de clochards qui dorment devant. C'est oui. Et pour moi, ça va complètement avec. J'ai eu envie d'écrire. Je reviens en fait régulièrement à New York. Quand je dis que je suis parvenue depuis 40 ans, c'est une mise en scène. Une mise en scène pour parce que c'est maintenant que quelque chose s'efface à jamais. Donc c'est pourquoi j'ai mis. Et aussi parce que c'est maintenant qu'il y a une coïncidence absolue entre le côté impérialiste, destructeur de la folie immobilière et un président. C'est-à-dire que New York est dominé, littéralement dominé, par les tours de Trump. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ce livre maintenant. Vous voyez, j'aurais pu... Avant, ça avait beaucoup moins de sens. Il n'y avait pas ce rapprochement, ou pas ce rapprochement, ce véritable conflit d'intérêts.
Vous décrivez les années 70 comme une partie géante qui dure plusieurs années. Oui. Tout est une partie.
Oui, mais toutes les personnes qui ont habité New York à ce moment-là le disent. J'ai pensé d'abord que c'était moi qui étais vraiment particulièrement festive. Et d'autres rencontres et avec des recoupements confirment ça. C'était un temps de partie. Il faut dire aussi que c'est une époque où New York est en banqueroute et sur la ruine et en ruine. Et la ville fait appel au président d'alors, qui était Gerald Ford, et il dit « va crever ». Go dead. Il accorde pas un centime et il abandonne la ville à la déréliction. Ça veut dire que dans cette ville, presque beaucoup de services publics ne fonctionnaient plus. L'éclairage, par exemple, était déplorable. Les rues, il y avait des trous, mais pas possible. Le chômage était énorme. Mais il y avait une pauvreté, mais en même temps, rien ne coûtait cher. Et donc, une vie fragile ou une vie précaire était tout à fait possible.
Vous me disiez justement, avant que nous arrivions sur scène, que vous vivez dans le 19e arrondissement à Paris.
Oui.
Vous retrouvez de cette ambiance-là dans le 19e aujourd'hui ?
Un peu. J'aime beaucoup le 19e, oui, un peu. Il y a quelque chose de... mais c'est pas un quartier, c'est pas précisément un lieu de création artistique. Mais sinon, il y a quelque chose de multiculturel, de non touristique aussi. C'est aussi une époque où il n'y avait même pas de photographie de New York. Il n'y avait pas de carte postale. C'est quasiment pas. Peut-être du World Trade Center.
Il y avait une proximité aussi, hein, des artistes, en fait, finalement. Il y avait une
sorte oui. De... Ah oui. Mais de toute façon, ces personnes n'étaient pas célèbres encore. Voyez.
Comment on sort de cette partie géante ? Comment on fait pour arrêter l'intensité ?
Moi, on ne l'arrête pas. Je veux dire, moi, après, je me suis mise à... C'est là-bas que je me suis vraiment autorisée à écrire. Et ben, l'intensité, je l'ai transportée autrement. Je veux dire, elle est dans mon plaisir à écrire, à voyager. Simplement, le contexte est très différent. J'ai aussi voulu écrire ce livre parce que les valeurs d'alors, qui étaient quand même beaucoup les valeurs de 68, j'ai tout situé sur New York, mais au fond, j'aurais pu écrire quelque chose sur Paris à cette époque. Il y avait aussi énormément de fêtes, de boîtes de nuit. Roland Barthes fréquentait les boîtes de nuit, commençait. Il a même écrit là-dessus. Il y avait quelque chose d'explorer, un désir d'explorer et de passer des limites et d'expérimenter.
Qu'est-ce que New York a conditionné, à apporter, à ajouter à votre envie d'écrire? Qu'est-ce que ça...
L'envie d'écrire, je ne sais pas si je l'avais vraiment. Sans doute, je l'avais. Mais je ne me le disais pas beaucoup. Et j'avais écrit donc cette thèse, pas énorme, sur Sade. Mais je l'ai comme dédiée à Roland Barthes. Et il était un interlocuteur qui m'amenait à écrire, qui répondait par des petites cartes postales. Et donc, j'ai commencé à écrire vraiment avec lui et pour lui.
En correspondance avec Roland Barthes ?
C'est-à-dire je lui donnais un chapitre ou deux chapitres et puis il me répondait un petit mot. Non, j'allais
assez court. Par carte postale ?
Oui, il adorait les cartes postales. D'ailleurs, des cartes postales des Landes, souvent. Et comme vous savez, il habitait Bayonne. Et, enfin, l'été. Mais écrire hors institution, puisque c'était quand même une institution, l'école pratique des études, c'est à New York que j'ai commencé. Et je pense que c'est parce que, justement, je voyais tous ces gens qui disaient « Ah, ben moi, je suis poète ». Je me suis dit « Ben, s'ils sont poètes, pourquoi pas moi
hein ?» Ça ne devait pas être facile, puisque vous racontez que c'est un nomadisme permanent.
Oui, mais il y a aussi... c'est quelque chose qu'on oublie maintenant, où c'est tellement difficile de se loger. On passait d'un lieu à l'autre très facilement.
Donc vous aviez quoi, un carnet sur vous tout le temps ? Comment vous avez commencé à écrire ?
Mais quand je suis arrivée à New York, j'y pensais pas du tout. C'est au bout d'un an, peut-être, que j'ai vraiment commencé à écrire.
Mais j'avais une sorte de journal, et quand j'ai écrit ce livre, ça m'a servi, ce journal, pour me souvenir de lieux précis, d'adresses, vous voyez.
Alors, vous plongez aussi dans un univers très féminin.
Donc, oui.
On retrouve aussi beaucoup de votre écriture dans vos livres précédents, sur ces descriptions d'une forme de sororité, d'une simplicité, d'échange. Il y a un très beau passage, vous vous racontez qu'en fait, donc vous êtes logé chez une jeune femme que vous ne connaissez pas.
Non, et puis, qu'une amie à moi a rencontrée dans le métro et qui lui a donné son téléphone, ce qui fait que quand j'arrive, je ne sais pas tellement où dormir, je téléphone à cette personne que non seulement je ne connais pas, mais qu'une amie a rencontrée 10 minutes dans le métro. C'est fou, hein, c'est... Et je lui téléphone et elle dit, mais bien sûr, venez, viens. Et donc, je vis quelques mois chez elle.
En nouant un lien très fort.
Oui, absolument. Et donc, comme elle est plutôt du genre militante, qui n'est pas vraiment mon tempérament, mais j'aime bien accompagner les possibles. Donc, elle me fait connaître des boîtes, et en particulier le Bonnie and Clyde, qui était très célèbre. Et où allait aussi Andy Warhol. C'était un très joli endroit.
Qui était un lieu réservé aux femmes.
Pas complètement, la
preuve. Pas complètement.
Mais oui, comme le Katmandou ici. Mais c'est à la fois des lieux réservés aux femmes, où on danse, où on drague, mais c'est aussi des lieux où des amis hommes viennent, mais ils n'abordent pas. La règle était qu'ils n'abordaient pas les femmes. Au Katmandou, en tous les cas. Je me souviens plus.
C'est ça, c'est un contexte politique aussi... de grande liberté, mais d'engagement et d'absolu.
Oui, mais au même moment, il y a les éditions des femmes à Paris. Vous voyez, c'est pareil en Italie. C'est un grand moment d'effervescence et de désir que soit reconnu ce qui est supposé être déviant.
Alors, je le disais, donc en fait, il y a un très beau passage où vous racontez qu'à force d'être avec cette colocataire dont vous vous rapprochez, vous finissez aussi par avoir ces tics de langage, porter ses vêtements. Enfin, vous racontez comment.
Avec ma première amie.
Oui. Comment une amitié, en fait, tisse une forme de presque jumelléité, on pourrait dire.
Oui, c'est vrai. Mais j'ai toujours vécu, finalement, dans une très grande proximité avec une amie. Et ici, par exemple, j'ai parlé de cette amitié d'enfance que j'avais à Arcachon, qui m'a inspiré des textes. Et je pense que j'ai toujours eu une sorte d'espace de complicité très forte avec une amie. C'est ma structure. Et à partir de là, il peut se passer beaucoup de choses. Mais donc, c'est pourquoi quand j'ai découvert, quand il y a eu le féminisme... militant, discursif, extraordinairement articulé. Bien sûr, ça m'a intéressée, mais je n'ai pas eu l'impression d'une révélation. Voyez. Alors que je sais qu'il y a des femmes qui ont totalement, et des hommes aussi, qui, à cette époque-là, totalement changé de vie. Je sais que Baudrillard, par exemple, sociologue, en 68, il a complètement changé de vie. Complètement. Il y en a aussi qui ont totalement changé de sexualité à cette époque.
Cette ambiance féminine, donc je le disais, oui. A quand même...
Féminine et féministe.
Féminine, féministe,
oui.
D'une certaine façon, a imprégné vos livres. Vous avez cette sensation ?
Ben alors justement, je ne pense pas que c'est cette ambiance. Je pense que moi, je suis... j'en parlais tout à l'heure à la librairie Médicis. J'ai lu Colette très tôt. Claudine à l'école, j'ai commencé logiquement. Et Colette continue d'être mon écrivain le plus proche, je dirais. Et Colette n'était pas du tout féministe au sens revendicatrice. Mais elle vous dit quelque chose d'une extraordinaire proximité à son propre corps, à son propre sexe. Et à votre entourage et à la nature. Donc, en ce sens, cette ambiance que j'ai trouvée beaucoup plus explicite sur le désir à New York, m'a épanouie. Mais je ne peux pas dire qu'elle m'a révélée.
Il y a une chose qui m'a frappée dans votre livre, c'est que vous parlez des premiers jours à New York, Ça a résonné pour moi avec les derniers jours à Versailles, dans les adieux à la reine.
Il ne faut pas confondre, oui.
Vous avez cette phrase très jolie, vous dites que finalement, l'aube du premier jour, quand on est en voyage, a une couleur singulière.
Oui, c'est vrai.
Je me suis arrêtée longtemps sur cette phrase en me disant, mais oui, parfaitement. Ouais. Alors, vous avez quand même quelque chose sur cette attention du début et de la fin.
Oui, oui, parce que je crois que le premier regard, et c'est pourquoi voyager est extraordinaire. On adore voyager pour ça, je pense. Parce que tout attire votre regard, attire votre attention, et on est comme survolté. Voyager vraiment démultiplie notre pouvoir d'attention et de, même de mémoire. On se souvient beaucoup plus d'un premier trajet, par exemple. Se perdre, pas savoir comment aller à la Seine. Ou... Et moi, ce que j'adore aussi, c'est arriver dans un lieu et demander des choses complètement évidentes pour les gens. Ou quand les gens me demandent, ils sont à deux pas du Pont des Arts, ils me disent où est la Seine, ça me bouleverse. C'est vrai, hein, c'est un truc merveilleux où je me souviens, une des premières fois, je ne savais pas vraiment ce qu'était Central Park. Et quand j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça ? On m'a dit, Central Park, mais c'est avec une pitié, pas possible. Et ça, c'est vraiment une chose des premiers regards, comme quand les regards d'amour. Il y a un premier regard, c'est sûr. Et les derniers regards, c'est aussi la même chose. C'est que quelque chose est en train de se séparer de vous et on veut tout garder. Oui, je suis très, 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 très... J'aime particulièrement les premiers regards et les derniers regards. Et comme je le raconte au livre, dans le livre, à la fin, j'ai travaillé 6 mois, en fait, au World Trade Center, où j'ai donné des cours de français. Et c'est vrai qu'après écrire ce livre, ça a été quelque chose comme me concentrer sur la mémoire de ce lieu.
Mais c'est assez émouvant, hein. Ces quelques lignes sur le World Trade Center sont... très émouvante parce que vous y décrivez un quotidien de travail, oui, simple, mais effectivement, au regard de l'histoire,
oui,
ça prend une intensité de la dernière minute.
Oui, c'est ça. Donc, l'effondrement des tours ont eu lieu beaucoup plus tard, mais quand même, je veux dire, j'ai participé à la vie au quotidien de tous ces travailleurs, de tous ces gens qui travaillaient là, qui avaient leur bureau là. Et quand j'ai regardé, comme tout le monde à la télévision, je me dis, c'est eux, d'une certaine façon.
On retrouve aussi, dans ce livre comme dans d'autres, cette attention à l'enfance. Vous racontez que quand vous arrivez, vous cherchez du riz au lait. et ce riz au lait qui est blanc, qui vous ramène à votre propre enfance.
Oui, et qui aussi... un des charmes de New York aussi, c'est que coexistent tous ces, par exemple, les diners où il y a les meilleurs riz au lait sont d'origine grecque. C'est des Grecs qui tiennent ça. Et ce diner où je retourne, c'est celui où j'allais à ce moment-là. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est ce qui disparaît, mais en même temps survivent, s'incrustent des certains petits magasins. Ça fait partie de l'étonnement.
Vous avez mangé du riz au lait quand vous êtes allé à New York la dernière fois ?
Oh ben oui, bien sûr.
Toujours.
Toujours.
C'est associé à New York ?
Ah non, c'est associé à quelque chose que faisait ma grand-mère. Non.
Partout. C'est une Madeleine de Proust ?
Oui, mais je n'ai pas le choc renversant d'une mémoire puisque je le sais. Je veux dire, lui, c'est parce que la Madeleine, il ne s'y attendait pas. Moi, le riz au lait, c'est une chose, un geste, c'est un rituel.
Et qu'est-ce que vous avez surpris, qu'est-ce que vous avez découvert qui vous a surpris dans ce sens
quand je suis rentrée ?
Oui.
Quand je suis revenue ? Moi, ce qui m'a surpris, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que c'était un lieu hors tourisme. Donc, vous voyez où c'est à peu près East Village ? Oui. C'est dans le sud de Manhattan. Et c'était... c'était vraiment les quartiers pauvres de la ville. Et c'est entre Washington Square et Tompkins Square. Et donc, si on continue vers l'est, on va sur East River. Vous voyez ? Et si on continue vers l'ouest, on va vers Greenwich et Hudson River. Donc c'est un tout petit quartier. Et c'est un quartier qui avant s'appelait le Bowery. Et à partir de 63 à peu près, comme beaucoup d'artistes y viennent, parce que c'est pas cher, Ginsberg, Andy Warhol, Basquiat, c'est après. Mais Lou Reed, The Velvet Underground, tous les artistes, peintres, il y a une sorte de migration des artistes. Ça va s'appeler East Village, en symétrie à Greenwich Village.
Vous marchez beaucoup à New York. Tout le monde marche beaucoup,
oui,
à New York.
Oui, c'est fou ce qu'on marche à New York. Oui, oui, on marche beaucoup. Et donc, ce qui m'a surpris vraiment, c'est que ce quartier, donc, maintenant, il y a des hôtels, pas encore des tours, parce que c'est un quartier aussi beaucoup plus bas que les autres. C'était un quartier d'origine ukrainienne et polonaise, avec un ensemble qui était juif new-yorkais, et puis italien, et polonais, et ukrainien. C'était à peu près ça, la configuration. Et maintenant, Little Italy, qui était juste à côté, a complètement disparu. Ça n'existe plus, Little Italy. Donc, il y a des hôtels, et puis cette ère international et insituable qui circule, quoi.
Mais vous aimez toujours aller à New York malgré tout?
Ah ben oui, 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 j'y vais régulièrement. Oui, oui, j'aime cette ville.
C'est un sentiment d'appartenance à une communauté, une mémoire.
Oui, c'est une ville où je me sens bien. C'est très complémentaire. C'est une ville aussi dont j'aime. On parlait tout à l'heure du 18e. J'aime le 18e pour ses auteurs, mais j'aime aussi New York pour ses écrivains, ça compte.
Alors, dans ce récit, en fait, vous êtes accompagné quand vous retournez en 2017 par une jeune femme qui vous agace un peu, en fait, par un guide qui vous agace un petit peu. À certains moments, vous avez envie, vous, d'aller vous perdre toute seule dans la ville. Vous n'aimez pas être accompagnée quand vous marchez.
Vous pensez à la femme dans un grand anorak. Oui. Alors, c'est pas exactement ça. C'est une vraie folle. Et je sors un jour, il fait très chaud. Bon, c'est aussi une des choses qu'il faut aimer dans New York, il fait très chaud. Donc, je sors un jour et elle est là devant l'immeuble, dans un immense anorak qui descend jusqu'aux pieds, blanc, intact, alors que je l'ai déjà remarqué, elle dort, je ne sais pas comment, j'ai d'ailleurs sa photo, je ne sais pas comment elle se débrouille, parce que c'est une SDF, très mystérieux quand même. Et elle est japonaise, et elle est maquillée comme pour le théâtre. No. Donc, elle a un masque aussi blanc, mais impeccable, complètement impeccable. Et je suis tellement sidérée par elle que je décide de la suivre. Mais je la suis un moment, et puis d'abord, elle marche très lentement. Et puis, elle est j'allais dire, elle est givrée. Elle est givrée. Donc, en fait, je diverge. Et aussi, je diverge parce qu'elle me... À sa suite, je me promène comme ça dans les rues qui sont maintenant que des petites boutiques très jolies, mais qui durent pas d'ailleurs parce que les loyers sont trop élevés et donc ça change tout le temps. Oui. Mais me promener avec un guide, non.
D'une façon générale, vous ne supporteriez pas un guide?
Ben non, non. De toute façon, je trouve que voyager, c'est beaucoup s'égarer.
Alors, en 1970, vous vous perdez, vous dormez là où vous êtes. Il y a une grande fraîcheur.
C'est aussi quelque chose de... J'insiste là-dessus parce que c'est quelque chose... Et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler maintenant. C'est une insouciance. C'était quelque chose, je pense, lié à ces années, qui était une absence de soucis sur l'avenir. Vraiment. C'est pour ça que j'ai envie d'en parler, parce que c'est des valeurs différentes qui ne sont pas d'actualité maintenant.
Quelle jeune fille vous étiez à Paris avant de partir à New York?
Mais pareil, la même, sauf que j'avais moins de... D'abord, il y avait moins de fêtes. Ensuite, j'écrivais ma thèse sur Sade et donc je lisais, mais je sortais aussi beaucoup. Mais la grande différence, c'est qu'en effet, je me mets à écrire à New York d'une manière plus libre.
Est-ce que c'est
et puis surtout, il y a cette chose aussi extraordinaire qui est ce qu'on éprouve dans une langue étrangère. Vous voyez, il y a quelque chose de relativement sûr de soi quand on parle sa propre langue, mais le truc formidable, c'est arriver dans un autre pays et tout d'un coup, on est très démuni. Et donc, c'est aussi pour ça l'histoire du premier regard. C'est que tout est assez compliqué. Et à cause de ça, je pense que ça s'inscrit avec un relief particulier.
Donc cette jeune fille qui était déjà très curieuse, que vous étiez, arrive à New York et finalement trouve du répondant à sa curiosité.
Oui, mais je l'avais trouvée très très tôt. Je peux vous dire que les plages d'Arcachon m'ont parfaitement satisfaite.
Dans ce voyage, la fatigue est votre meilleur allié. Vous racontez qu'en arrivant, quand vous êtes fatiguée, c'est pas du tout une contrainte, c'est un plaisir.
Oui, moi, le décalage horaire, je trouve que quand on aime le voyage, on aime tout du voyage. J'accepte le décalage horaire. Et je trouve que dans le décalage horaire, il y a quelquefois des possibilités de révélation. Quelque chose qui vous... On se réveille à 5 heures et on voit la ville se lever. Ou alors l'inverse. On arrive à Hong Kong et on n'arrive absolument pas... On est comme un zombie toute la journée, mais on voit quand même quelque chose. Autrement.
C'est un voyage à la fois d'aventure et en même temps très poétique, puisque vous vous arrêtez sur des ambiances. Et finalement, on retrouve vraiment ça dans l'écriture, dans tous vos livres. C'est-à-dire que cette ambiance-là, elle vous a tout à fait imprégné, elle ne vous quittera plus jamais.
Oui, mais le plaisir d'écrire, c'est de trouver les mots qui transportent non seulement des émotions, mais quelque chose de ténu dans les sensations.
Est-ce que cet exercice-là vous demande une organisation particulière, un lieu particulier Comment vous écrivez, Chantal Thomas?
J'écris l'après-midi, mais assez tôt dans l'après-midi, et voilà. Mais je prends aussi beaucoup de notes dans les cafés, des choses... vues, des sortes d'esquisses, des choses comme ça. Et puis il y a aussi tout un temps, il y a beaucoup de lectures qui accompagnent cette écriture.
Alors dans l'avion, vous lisez? Pas du tout?
Non.
Non, jamais. Vous écoutez de la musique?
J'écoute de la musique, oui. Oui.
Surtout pas. Vous ne lisez surtout pas, vous dites. Pourquoi?
Non, parce que j'ai pas envie dans un avion, c'est déjà une bulle, un avion, j'ai pas envie de rajouter la bulle de lecture. Je trouve que c'est... Et puis j'aime regarder, moi j'aime beaucoup regarder les nuages et le ciel.
Et qu'est-ce que vous écoutez?
Oh ben ça dépend des vols. Moi j'aime beaucoup Leonard Cohen. Après avoir appris sa mort, j'ai écouté en boucle Leonard Cohen constamment. Mais j'écoute du jazz, c'est très très bien le jazz hein. Quand on vole, non? Ou aussi Vivaldi, Mozart, extraordinaire en avion, bien sûr.
Vous avez une playlist, en fait, pour les avions?
Non. Non, je ne suis pas très organisée.
Chantal Thomas, quand vous revenez à Paris, est-ce que vous avez ces mêmes sensations, cette même découverte, ce même petit plaisir, ce premier matin, cette attention à l'aube, au décalage horaire, à la lecture? Est-ce que ça marche aussi dans l'autre sens?
Oui, parce que d'abord, je vis vraiment beaucoup entre les deux, Paris et New York. Et quand j'ai quitté Paris, j'avais une sorte de lassitude. Et je pense que, justement, j'avais perdu ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de partir. Mais maintenant, non, je le sens intensément Paris. D'autant que on peut pas dire qu'on manque d'actualité. Et par rapport à ce qui se perd, vraiment.
Est-ce que vous lisez les journaux? Est-ce que vous êtes attentive à cette actualité?
Oui, moi je lis les journaux, oui, oui. J'y passe pas beaucoup de temps, voyez. Je regarde peu la télé, par exemple. Mais oui, je lis les journaux.
Vous aimez le papier?
Oui, 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 oui. Enfin, je regarde les nouvelles beaucoup sur France Info, à l'écran hein, aussi. Mais... Ça occupe pas beaucoup de mon temps, pour vous dire. Parce que bon, d'abord, lire occupe beaucoup de temps. Et ça, j'adore lire. Et puis écrire aussi, c'est une mobilisation. Même quand on n'écrit pas, c'est quand on commence à être dans l'espace d'écriture, ça vous captive.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'on n'a pas tellement envie de se laisser distraire. Et on se promène avec en tête ce désir de phrase ou ces phrases qui continuent en vous. Et puis, bon, un livre, c'est une totalité. Donc, tout le temps où j'écrivais ça, j'étais très particulièrement sensible dès qu'il y avait quelque chose qui touchait à New York. Ou quand j'écris un roman historique, ça va être une perspective d'un château, une gravure ancienne, des choses comme ça. C'est-à-dire, on voit, un peu comme quand on est amoureux, tout vous rappelle la personne que vous aimez. Et quand on écrit, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que tout fait tilt quand ça touche au sujet sur lequel vous êtes.
Vous avez un rapport amoureux à l'écriture, Chantal Thomas ?
Ah oui, ben heureusement, je veux dire, oui, absolument. Oui.
C'est votre plus grand amoureux ?
Oh non, je veux dire, je sais combiner les choses.
Est-ce que vous lisez Américain, cette revue d'Eric Fotorino ?
Oui, je la connais pas bien. Oui, oui. Mais c'est un beau projet.
C'est un gros projet. Et en fait, qui prend le temps de raconter des histoires sur New York. Donc voilà, j'étais curieuse de savoir, parce que dans votre livre, je trouve que ça résonne beaucoup avec l'actualité traitée dans cette revue. Mm-hmm. Alors que votre livre n'est évidemment pas du tout un livre d'actualité.
Ah bah si.
Oui, 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 oui. Enfin, de votre actualité, je dirais. Mm-hmm. De votre regard, mm-hmm. qui est tout de même plus poétique que qu'analytique.
Oui.
Vous avez un regard poétique sur tout ce que vous regardez, oui ?
Ah bah écoutez, je sais pas, ça c'est mon regard. Mais je cherche aussi à comprendre ce que je vois.
Mais quand vous regardez les choses, vous les voyez avec un prisme de couleurs, d'architecture, de lignes. On a cette sensation là en lisant votre livre.
Oui.
Oui.
Bah, c'est-à-dire que. Si j'aime New York, c'est parce que j'ai eu ça à Bordeaux. J'ai été saisie par... avec New York, c'est contradictoire, parce que ça fait aussi un effet de chaos, mais en réalité, tout se tient très bien ensemble. Les gratte-ciel, les maisons beaucoup plus petites, tout avance par juxtaposition. Et donc ça c'est captivant. C'est une architecture très, très particulière et très changeante et très mobile. Alors qu'ici, au contraire, ce qui m'avait tellement séduite, c'était la continuité et la rigueur dans une harmonie.
Vous gardez des souvenirs en dehors de vos notes, de votre mémoire, de vos histoires. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est attaché à l'objet ?
Pas tellement, non. D'ailleurs, quand on voyage beaucoup, c'est difficile. Non, pas tellement.
Tout ce qui est écrit dans votre livre, en fait, vient de votre note où vous avez encore, finalement, cette mémoire vive, immédiate, qui fait que vous vous êtes plongé immédiatement dans Chelsea.
Ah non, mais ça vient pas de tout ce qui est écrit dans mon livre. Presque rien vient du journal. Presque rien. Ce qui est écrit dans mon livre vient d'une mémoire, mais d'une mémoire retravaillée, pas littérale. Certains passages, oui, d'autres, non.
Vous gardez l'intensité de la mémoire en vous.
Mais écrire, je pense que écrire, c'est la réactiver, cette intensité. Comme je pense en analyse, quand les gens reprennent un rêve, ils réactivent quelque chose.
Est-ce que c'est douloureux ?
Là, pas tellement, non. Je veux dire, je rappelle des fêtes et la découverte d'un art flamboyant. Et au contraire, écrire ça m'a remise entièrement dans cette musique. Ça serait peut-être douloureux si je retournais plus jamais à New York, si c'était comme une chose derrière moi, voyez, fermée, ce qu'est l'exil. Non, ça, je crois que ça peut être très douloureux, mais c'est pas du tout cette tonalité, même si ce quartier a disparu. Mais d'abord, il a disparu, certes, mais les écrits des poètes qui l'ont créé existent toujours, sont très lus, donc quelque chose continue.
Merci Chantal Thomas.
Merci. Peut-être on peut passer les autres photos.
Ah oui.